Et voilà, Onde Noire, deuxième partie. Et on va changer de siècle, me semble-t-il, Jacques. Enfin, je crois.
Oui, avec un roman de Louis Bayard qui s'appelle La Tour Noire, qui est publié aux éditions du Cherche Midi et qui est traduit par Jean-Louis Piningre. Et oui, en fait, il y a un traducteur, même si ce monsieur s'appelle Louis Bayard, qui fait quand même plutôt français, l'auteur est bel et bien états-unien. Par contre, l'intrigue, elle, se déroule en France, à Paris majoritairement, en l'an 1818, pendant le règne donc de Louis XVIII, qui était un Bourbon, mais qui n'était pas du Kentucky.
Ça m'étonnait que tu ne fasses pas une référence à un des alcools préférés.
Le Kentucky, c'est le roman noir.
De certains auteurs de polar.
Dans ce roman, il y a deux personnages principaux, ou plutôt en fait trois. Le premier, vous le connaissez sûrement, soit sous les traits de Harry Bord, soit sous ceux de Claude Brasseur ou de Gérard Depardieu, selon un peu votre âge, c'est Vidocq. Vidocq, au moment où il est chef de la police parisienne. Alors Vidocq, il est passionné par les déguisements, par tout ce qui est scientifique, et dans cette enquête, il utilise des expériences ou des objets à peine inventés dès qu'il peut. Le second personnage, c'est un docteur, Hector Carpentier. En fait, un futur docteur, parce qu'au début du roman, il n'est qu'étudiant en médecine. C'est aussi le narrateur, et Vidocq se moque souvent de lui. Vous voyez, un couple d'enquêteurs comme ça, où le médecin est le narrateur, et un homme qui aime bien les expériences scientifiques se moque de lui. Ça, vous pouvez penser à personne.
Quelqu'un qui habiterait quelque part au 221 B Baker Street,
voilà.
Par exemple.
C'est vrai qu'on pense un peu à Sherlock Holmes. Mais en fait, ça reste assez éloigné, sauf dans le couple d'enquêteurs, c'est quand même assez étonnant. Et le troisième personnage dont je vous parlais au début, dire-vous, eh bien, c'est un jeune homme. Un jeune homme que l'on soupçonne être Louis Charles, donc le futur potentiel Louis XVII.
Mais attends, on en est à Louis XVIII. Oui, tu reviens en arrière, toi ?
Oui, mais ils enquêtent sur un jeune homme.
Ah, pardon.
Parce que Louis XVIII règne, mais voilà. Et comme j'allais dire, ce Louis XVII, futur potentiel, donc, est censé être mort, en fait, à la prison du Temple, victime de privations et d'autres cruautés infligées par ses gardiens.
Oui, d'ailleurs, on a identifié son crâne génétiquement il n'y a pas longtemps. Voilà.
Et donc, les deux compères vont essayer de trouver qui est le jeune homme. Comment il est arrivé là? Comment aurait-il échappé à ses bourreaux si c'est bien celui qu'on croit qu'il est?
Vous avez suivi? J'espère que vous suivez, parce que...
En fait, ils pensent que c'est Louis XVII, mais ils n'en sont pas sûrs, donc ils vont enquêter pour savoir si c'est lui. La Tour Noire, c'est la tour du Temple, qu'il porte, qui donne le nom à son roman. Alors, dans celui-là, je vous dis, dans ce roman, on est très très loin des romans de séries noires dont on vous parle régulièrement ici. C'est pas du roman noir, c'est même pas un thriller, même si c'est marqué en gros sur la couverture. C'est plutôt un roman historique, épique, à la Dumas ou à la Paul Féval.
Un roman d'aventure, en quelque sorte.
Un roman d'aventure, en quelque sorte, voilà. Ça, faut bien dire, ça atteint pas quand même les qualités de ces deux monstres sacrés, mais c'est quand même très très bien fait et très réussi. Le rythme est vif, il y a de l'action, des meurtres, de l'humour, de la politique, et même un peu de sexe pour pimenter le récit.
Déjà au 19e siècle, il y en avait ça alors.
Oui, c'est pour faire des enfants, tu sais, il faut faire du sexe. Hein,
À
moins qu'il y avait les petits oiseaux
oui,
et les
choux. Oui, c'est vrai que le marquis de Sade était passé par là depuis un certain temps.
Et puis ce Vidocq, c'est un chou lapin, pour ceux que ça intéresserait, vous pourrez le trouver page 200. Non, je ne dis pas. Et donc voilà. Mais ce qui est surtout vraiment bien fait, c'est la reconstitution historique, la documentation.
Ce que j'allais demander. Est-ce que c'est crédible?
C'est très crédible. La documentation est vraiment assez bien faite. C'est monsieur Louis Bayard qui est journaliste aussi. Et ce qui est bien aussi, c'est la langue. Il a vraiment, je sais pas comment, je peux pas savoir que j'ai pas lu la version anglaise, donc je sais pas qu'est-ce que ça donne en anglais si c'est le traducteur qui a beaucoup bossé. Mais la langue est vraiment la langue de l'époque. C'est vraiment très très intéressant avec les expressions. Je sais même pas si les expressions existent en américain vu que. Ils n'existaient pas.
Je te rappelle quand même que les États-Unis d'Amérique existaient déjà au 19e siècle, quand même.
C'est vrai.
Ils avaient même déclaré leur indépendance, ces braves gens.
Ils avaient peut-être encore. Ils avaient peut-être donc ces expressions-là, effectivement. Voilà, donc c'est un roman. On passe à un vraiment bon moment de lecture fun et agréable et un peu instructive en plus.
Voilà, donc c'est pas le genre de roman qu'on vous recommande souvent, donc...
Non, c'est, disons, plus grand public que ce qu'on vous recommande d'habitude, mais c'est quand même très, très, très bien fait.
Bon, alors moi, je vais revenir dans le vieux continent pour vous parler d'un roman traduit de l'anglais aussi, traduit par Gérard de Chergé. C'est un roman Seul le titre n'a pas été traduit. Il s'appelle Cold in Hand et c'est le dernier roman de John Harvey qui est paru...
Le dernier roman en date.
En date, bien sûr, pardon. Oui, ça fait toujours un petit peu peur quand on dit ce genre de choses. Et un roman traduit dans la grande collection de chez Rivage, Rivage Thriller. Donc, il est sorti l'année dernière, mais c'était pas si loin que ça l'année dernière. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, soit en les lisant, soit en lisant les critiques, les héros sont quelque peu fatigués en ce moment. Beaucoup prennent leur retraite, le héros de Ian Rankin, le héros de Henning Mankell. Là, celui de John Harvey, Charlie Resnick, il n'en est pas encore là. Mais pour être fatigué, il est fatigué. Ce qui est bien, par contre, c'est que ça fait 6 ans qu'on attendait le suivant. John Harvey n'avait plus écrit de roman autour de son personnage depuis un moment. Et enfin, Charlie Resnick nous revient.
Il faut dire qu'entre-temps, il avait créé une autre série.
Une autre série, un autre personnage. Il n'est pas loin de la retraite, là. Et il, en gros, il se heurte de plus en plus à la hiérarchie, aux méthodes modernes de la police, qui négligent complètement l'humain au profit de la technologie, des résultats, du profilage, de tout ce genre de choses. Heureusement, ces vieux jours, pas encore tout à fait, mais ces jours un petit peu vieux, quoi, sont illuminés par sa copine. On l'a rencontrée depuis un moment dans les précédents romans, Lynn Kellogg. On a assisté à leur rencontre, on a assisté à leur bagarre,
à leur début,
au fait qu'ils étaient un peu comme chien et chat, au fait que Resnick a un peu été son mentor. Voilà, c'est devenu sa compagne et même il vit avec. Il partage sa maison, ses chats, il en a toujours 4, et sa musique préférée, le jazz. Et dans ce roman, Harvey va déporter le personnage principal de Resnick à Lynn Kellogg, puisque c'est elle qui va être chargée des 2 enquêtes que l'on va suivre. D'abord, au cours d'une épopée, elle a été blessée lors d'une rixe entre 2 balles rivales, et lors de cette rixe, une jeune femme est morte dans ses bras. Elle cherche le meurtrier. Dans le même temps, elle continue ses investigations sur l'assassinat d'une jeune émigrée. Elle a été tuée dans un salon de massage et elle protège celle qui est devenue son témoin principal, une autre émigrée, et qui évidemment a pas mal de pression sur elle. Pression sur le boulot et puis pression sur sa vie. Et Lynn, donc, elle est sur le qui-vive, elle est très stressée. Elle est meurtrie dans sa chair, elle a été blessée lors de la fameuse bagarre dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle est agressée constamment par le père de la jeune femme morte. Et elle craint aussi donc pour la vie de la protégée roumaine. C'est une flic intègre, elle a promis de la protéger et elle a très peur. Un des talents de John Harvey, c'est d'imaginer des personnages tout à la fois complètement fictionnels, on est vraiment dans du roman, mais ces personnages sont totalement ancrés dans la réalité et la société d'aujourd'hui. Resnick, Lynn, ce sont de magnifiques héros de romans noirs. Mais avant tout, particulièrement Resnick, c'est un humain qui souffre pour lui, pour les autres, et qui en gros est le témoin impuissant de la déliquescence de l'Angleterre. Les crises se succèdent, la misère ronge tout tissu social, laissant place à tous les trafics, tous les exactions, où l'être humain n'a plus aucune valeur, sauf une, évidemment, une valeur marchande. Cold in Hand, ce roman, c'est vraiment le roman le plus noir de la série des, on va dire, des Resnick. Mais c'est tout simplement un roman noir. C'est pas, je ne pense pas que John Harvey ait voulu plonger dans cette noirceur et dans le sordide et le glauque. C'est tout simplement l'époque qui veut ça. Depuis les débuts de Charlie Resnick, eh bien, l'Angleterre s'est enfoncée dans la crise. Le monde va plus mal. Et l'écrivain sait aussi toujours bien tricoter les intrigues, il excelle surtout à peindre le portrait d'une nation, parmi d'autres, hein, l'Angleterre n'est pas la seule, qui est en plein marasme économique et social. Donc c'est pas du tout étonnant que ce soit un roman de plus, que ce sont des romans pardon de plus en plus noirs. Voilà, John Harvey est aussi un fan de jazz. Ses 4 chats ont des noms de grands musiciens de jazz. Donc qu'est-ce qu'on va écouter, Jacques ?
Eh bien, on va écouter John Harvey lui-même, avec un groupe qui s'appelle Second Nature. Ils ont mis en musique de ses textes ou de ses récits. Il parle des musiciens qu'il aime ou des extraits de ses livres. Et là, c'est un morceau qui s'appelle Till It Shines, donc avec le groupe Second Nature.
danced together. Oh, yes, we did. That evening and after. Stepped round each other. Pleased. Cautious. Prepared to be impressed. Out on the street, along the canal, your hand moved like light against the smoothness of my skin. We could be so happy together. You brought my fingers to your face to feel the tears fall. Brought your bone china cups and placed them on my shelf. Look into my eyes, you said. Look into my eyes. Out there at the tide line, arms wound so close they could be dancing. But no, they are standing, this couple, perfectly still. And anyone looking at them can see how much they are in love.
La note de John Harvey me permet de vous présenter quelqu'un qu'on a déjà beaucoup eu dans cette émission, un des fondateurs de cette émission, Alain Bandry, bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Donc, vous êtes un fan de polar et en particulier, vous êtes le critique polar de Nice Matin, puis maintenant du Patriote. Donc, on a la joie de vous retrouver pour nous parler d'un roman d'un Italien qu'on suit depuis bien des années, Andrea Camilleri.
Mais oui, on le suit depuis 2002. Ça paraît incroyable, mais depuis 2002, eh bien, Andrea Camilleri est arrivé dans la planète polar, comme ça. Il nous a bien étonnés, nous a bien bluffés.
Et il continue.
Il
continue à nous bluffer.
Il continue à nous bluffer, tout à fait. Et surtout, ce qui nous avait étonnés, je me souviens, quand c'était sorti la première fois, c'était le non-conformisme dans son écriture, hein, qu'il décline sur les trois niveaux qu'on connaît un peu maintenant, l'italien officiel, le dialecte sicilien, et entre guillemets l'italien sicilianisé. Et bravo à Cadrupani, parce que pour se débrouiller avec tout ça, ça va pas être très facile. Cadrupani est un traducteur.
Le traducteur.
Enfin, pour ce qui concerne, il nous bluffe surtout par son personnage, qui est récurrent, le commissaire Salvo Montalban, qui a 56 ans maintenant, qui est perspicace, et qui est surtout un fin gourmet, et aussi nous bluffe par les personnages qui tournent autour de lui. Alors la piste de sable, donc le 12e opus de la saga, hein, de notre commissaire, et on ne s'en lasse pas. Alors la première phrase nous est dans le bain tout de suite. Je cite, « Il ouvrit l'œil et aussitôt le referma. » Donc pas envie d'entrer dans le réel, dans le monde de miasme et de turpitude, il veut retourner dans le rêve surréaliste qu'il a fait peu de temps dans son éveil. Et dans ce rêve, il chevauchait au milieu de nulle part une femme jument. En fait, c'est un rêve prémonitoire, car dans cette histoire, il sera question de chevaux et d'une belle amazone. Ce matin-là, donc, après s'être levé, la belle journée, ce qui s'annonce, est gâchée par ce qu'il découvre sur la plage de sa villa, un cheval recroquevillé sur le flanc, immobile. Il a été battu à mort. Le temps de convoquer ses hommes, le cadavre a disparu, une enquête complexe peut commencer. Mais comme toujours, même si l'enquête est pleine de rebondissements, elle reste très captivante. Ce qui nous accroche, en tout cas ce qui m'accroche, le plus demeure notre personnage de commissaire avec ses sentiments, ses pensées et ses agissements souvent cocasses. Nous sommes d'ailleurs très intimes avec lui et souvent le narrateur s'adresse directement au lecteur. Par exemple, quand Montalban aussi invente des proverbes pour justifier son comportement ou les mensonges dans lesquels il s'empêtre avec ses histoires entre trois femmes. Ici, il y en a trois, effectivement. Il y a Livia, l'éternelle fiancée qui vit à Gênes. Il y a Raquel et l'Amazone, je cite, « grande blonde, cheveux aux épaules, longues jambes, yeux bleus, corps ferme et athlétique, exactement, j'insiste sur le exactement,
exactement,
comme on s'imagine les Valkyries. » Et enfin la troisième, Ingrid, qu'on connaît depuis le début des aventures, qui est l'amie amante. Donc il s'invente des proverbes pour essayer de justifier tout ça, et alors j'en cite deux, « 100 mensonges par jour libèrent des ennuis d'amour », ou bien souvent le boniment épargne bien des tourments. Mais en fait, s'il ne peut résister aux femmes, Montalban, c'est qu'il veut arrêter la marche des oracles du temps. Car faire l'amour, c'est que, dit-il, durant ces quelques secondes où seul le corps vit, tandis que la tête se perd dans un grand rien, enfin hors du temps. Et si le souvenir de ces moments lui revient à l'esprit dans son lit, c'est le cas quand il se retrouve l'odeur de Raquel et sur son oreiller, on a cette phrase incroyable et irrésistible, je cite, il tenta de résister quelques minutes, minute inclus, et dut se lever pour éviter de périlleux mouvements au sud.
Effectivement.
Comme dans les deux ou trois romans qui ont précédé la piste du sable, le tracassin qui perturbe notre cher Salvo, c'est l'insupportable présence de l'âge qui se fait de plus en plus présente, voire de plus en plus pesante. Et cela, il ne peut pas le voir. À propos de vue, justement, quand il se rend compte que Augello, son camarade, porte des lunettes pour lire son rapport, cela le déconcerte complètement si bien qu'il n'écoute rien du rapport et interrompt sans arrêt son collègue sur la porte des lunettes. Sa vue baisse, mais l'idée de porter des lunettes est comme faire un premier pas vers la tombe. Et le lecteur de rire à la lecture de ce dialogue des plus déjantés. Avec l'âge, remonte à la surface les souvenirs lointains comme cette partie de pêche au Lamparo avec son oncle, quand il était minot, ou les objets qu'il lui avait donnés. On retrouve aussi le doublement de Montalban, qu'on connaît depuis deux, trois romans, une sorte de schizophrénie qui le hante dans les moments de doute, mais qui l'aide bien aussi pour trouver de faux prétextes. Camilleri est un inventeur dans l'écriture, et il manie l'art du portrait radical d'une façon singulière. Par exemple, cette première entrevue avec Guido, l'amant officiel, entre guillemets, de Raquel, je cite, il avait une voix de doubleur de film porno. Une de ces voix chaudes et profondes qui sont utilisées dans ces films pour susurrer des trucs dégueulasses aux oreilles des femmes. Voilà, à 85 ans, bien sonné, André Camilleri reste un novateur. Il a inventé un genre que j'appellerais le polar sicilien déconnant. Car s'il reste ancré dans la réalité bien complexe de son pays, le roman surfe sur la galéjade, la bouffonnerie de la comédie humaine. Encore une fois, un régal, je dirais même un festin.
Donc on va rappeler, donc ça s'appelle La Piste de Sable.
La Piste de Sable, c'est sorti chez Au Fleuve Noir.
Et la traduction
de Serge Quadrupani.
Voilà.
Et le prix, 19,90 €.
Merci beaucoup Alain Bandry. On a envie à la fois de se mettre à table et de lire très très vite ce roman avec ses magnifiques citations. C'est vrai que ça nous donne envie de partir vite en Sicile.
Et puis en plus, il y a une série de dialogues qui sont absolument désopilants tout au long du roman. Hein.
Tout est, contrairement aux autres, les plus anciens, tout est construit sur des scènes de dialogue. Et c'est pour ça que finalement, même si l'intrigue est intéressante, je dirais pas qu'on s'en moque un peu, mais disons ça passe un peu à côté, on attend le dialogue suivant, et effectivement, il joue complètement sur le délire du dialogue, avec des incompréhensions, des quiproquos permanents, etc. Et c'est vraiment très 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 drôle.
Eh bien, merci beaucoup Alain Bandry, à bientôt j'espère. Au revoir.
Au revoir, bonne soirée.
Voilà, donc on finit sur une note donc un peu plus légère avec ce livre d'Andrea Camilleri. Mais je rassure nos auditeurs, c'est vrai que c'est le 12e, c'est vrai que c'est le 12e avec Salvo Montalbano, mais on peut très bien l'entamer sans connaître les autres.
Ah oui, tout à fait.
Mais bon, de toute façon, vous allez devenir accro et vous allez acheter les autres après.
Voilà, exactement. Et les autres, en plus, à chaque fois qu'en paraît un en grand format, paraît un des précédents en livre de poche.
Voilà. Donc en plus, on vous fait faire des économies. Que demandez-vous ? Eh bien voilà, le temps a passé vite. Merci beaucoup de votre attention. Et puis à bientôt. Au revoir.
Au revoir.